Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Mag au carré, du monde, aujourd'hui autour de la table. Une table bien réelle, pas de distanciel aujourd'hui pour une émission un peu spéciale qui risque fort de vous intéresser, vous qui nous écoutez. On est ensemble pour une vingtaine de minutes avec un thème central aujourd'hui. L'avenir du bureau est-il au bureau? Les bureaux ont-ils toujours la cote? On a beaucoup de questions à poser à nos invités, je dis on parce qu'évidemment, eh bien je ne suis pas tout seul, non. Audrey Jourdain est avec moi, bonjour Audrey.
Bonjour Nicolas.
Vous allez bien?
Très bien et vous?
Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré et je vais très bien pour répondre à votre question. Juste en face de vous, eh bien, il y a Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières et membre du directoire de Swiss Life Asset Managers France. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Même question, vous allez bien?
Parfaitement bien.
Malgré les circonstances, en pleine forme.
Exactement.
Et puis à côté de vous, Yann-Cédric Bozek de chez Etio. Bonjour.
Bonjour.
Même question, en pleine forme.
En pleine forme et ravi de voir des gens en vrai. C'est plus sympa
qu'un c'est plus sympa quand même.
Exactement.
Et ben voilà pour les présentations. Je vous propose eh bien de rentrer à toutes et tous hein, dans le vif du sujet, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec votre chronique, Audrey.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Eh bien, nous sommes toujours dans le flou. Le problème est que nous manquons toujours de visibilité quant à l'expansion de l'écosystème, bureaux, espaces tiers et domiciles. Alors forcément, par voie de conséquence, l'immobilier tertiaire est toujours frappé par l'attentisme. La demande placée francilienne a chuté de 30% au premier trimestre 2021 et le volume investi des bureaux français a baissé de 27%. Mais, vous allez voir, on observe tout de même des signaux très positifs. Première tendance qui donne le sourire, le retour des grands utilisateurs. 13 transactions portant sur des surfaces supérieures à 5 000 m² ont été réalisées en Île-de-France. C'est 30% de plus qu'au premier trimestre 2020. Autre signal positif, les bureaux ont toujours la cote auprès des investisseurs. Écoutez bien, le volume investi a certes chuté, c'est un fait, mais il reste supérieur de 40% à la moyenne décennale. Autre point clé positif, le premier trimestre 2021 est le deuxième record historique. Le premier était en 2020. Dernier chiffre, les bureaux ont concentré 77% du volume investi en immobilier d'entreprise. La classe d'actifs est donc toujours, on peut l'affirmer, celle qui dynamise le plus le marché de l'investissement en immobilier d'entreprise. Donc pour conclure, oui, nous sommes toujours dans le brouillard, les marchés tertiaires souffrent, c'est un fait, mais ils sont loin d'avoir prononcé leur dernier mot.
Un brouillard qui semble s'éclaircir. Voilà pour les chiffres, les grandes tendances faites de paradoxes, de situations, de constats. Et bien finalement, on va discuter de tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet, peut-être avec une première question pour Fabrice Lombardo, Audrey.
Tout à fait. Swiss Life, a-t-elle modifié sa stratégie d'investissement portant sur les bureaux depuis mars 2020?
Alors, absolument pas. Absolument pas. Et on peut se rendre compte, en fait, que le Covid a plus été un accélérateur des tendances, surtout sur le bureau. Peut-être sur le résidentiel, c'est un peu différent. Mais sur le bureau, ça a été un accélérateur des tendances qu'on voyait déjà auparavant. Et donc, cette pandémie a validé notre stratégie d'investissement, qui est laquelle, qui a toujours été de se concentrer dans des zones d'investissement, j'allais dire, indubitables. On va parler de Paris-Centre. Et quand je dis pas Paris-Centre, ce n'est pas que le quartier central des affaires. C'est vraiment tout Paris à l'intérieur du périphérique pour des raisons de modifications sociétales qui sont toujours là. C'est que les entreprises et leurs employés veulent avoir de la vie autour de leur bureau, des services, et veulent avoir des bureaux qui ont une âme, qui physiquement, un immeuble qui a quelque chose à dire et qui ne ressemble pas à l'identité de votre voisin. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà là avant et dont on sent que c'est toujours aussi important aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment dans cette approche-là. Alors on a la même stratégie d'investissement à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Marseille. Ce sont vraiment ces approches-là. Là, pour le coup, on est près des gares, mais dans les zones établies. Et donc là, on ne va pas changer notre stratégie d'investissement. Et si je reviens sur Paris, on avait aussi une stratégie d'investissement qui était sur certains hubs du Grand Paris, avec toujours la même approche, c'est de se dire on veut des transports en commun et on veut de la mixité urbaine aussi autour. Et donc ce sont ces éléments-là qui, aujourd'hui, continuent d'être présents avec le Covid, puisque les gens vont peut-être télétravailler, ont moins envie de se déplacer longtemps en transport en commun, donc veulent habiter près de leur lieu de travail. Donc tous ces éléments-là sont importants, mais on les avait déjà intégrés en ayant identifié cette tendance de fond sociétale.
Est-ce qu'il y a une volonté aussi peut-être d'investir dans des bureaux, dans des lieux qui colleraient finalement proches des lieux de résidence? Alors on sait avec le Covid que les citadins ont envie de partir un petit peu de ces grands centres urbains, un petit peu, parce qu'ils ne vont pas non plus faire un exode rural, mais urbain plutôt dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il y a une envie de coller les centres de bureaux proches des lieux de vie?
C'est aujourd'hui une réflexion. C'est une piste. On sait que les hôteliers travaillent dessus pour éventuellement reconvertir certains de leurs hôtels dans ce genre de situation, ou en tout cas leur apporter une deuxième source de revenus. On a quand même je pense que cette tendance-là va peut-être plus impacter le résidentiel que réellement le marché des bureaux. Parce que le marché des bureaux, si on raisonne d'un point de vue entreprise, c'est-à-dire effectivement, vous allez avoir salarié 1 à 2 jours de télétravail par semaine, dans ce cas, vous le ferez chez vous. Ou effectivement peut-être dans quelques tiers-lieux, mais c'est vraiment dire moi en tant que corporate, je souhaite être malgré tout dans le centre de Paris. Je souhaite être proche de mon écosystème, et ces écosystèmes, ils ne peuvent pas être complètement éclatés. Quand vous travaillez dans la tech, dans les médias, vous avez des écosystèmes autour de vous et vous souhaitez être proche. Et donc cette tendance-là, elle ne va pas disparaître.
Je vous vois caissier. Yann Cédric Bozek.
Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a une vraie envie de centralité. Et finalement, c'est pas trop les entreprises qui font l'exode. C'est à la limite les gens qui déménagent et qui vont un peu au vert, mais qui reviennent travailler, surtout avec cette nouvelle répartition du travail qu'on a, sur leurs bureaux qui restent dans les métropoles. Donc je suis hyper en phase avec ça.
L'intérêt du Grand Paris aussi, peut-être stratégique.
Vous positionnez-vous sur des actifs situés dans le Grand Paris?
Alors, on se positionne pas sur tout les zones du Grand Paris, sur certaines zones que l'on considère comme gagnantes, qui est principalement la nouvelle zone juste derrière la Défense de Nanterre, les Grous, où on a investi des actifs de plusieurs tailles, allant du siège de Vinci Construction, d'une partie du siège de Vinci, jusqu'au siège de Engie, qui, lui, est un gros bébé, c'est 94 000 m2. En 4 bâtiments, et c'est vraiment cette zone-là dans laquelle on croit, puisqu'on voit vraiment, l'histoire de cette zone est assez positive, parce qu'elle mixe justement ce dont je vous parlais. Il y a du service, il y a de la nature, il y a du vert. Là, sur les zones d'Engie, on a un peu moins de 2 hectares de parc, et dans ces immeubles, on a 6 000 m2, pardon, de terrasses. Vous voyez, vous mixez, c'est pas minéral. Il y a de la verdure, il y a du service, il y a des commerces, et autour de vous, vous avez du logement proche, accessible, et l'ensemble a été conçu pour ne pas faire de couture avec l'environnement immobilier résidentiel autour. C'est-à-dire que les rues sont prolongées. Vous voyez, c'est pas un bunker comme les campus ancienne génération. Donc là, vous êtes ouvert sur la ville. C'est un prolongement naturel. Et donc, ce sont tous ces éléments-là qui nous ont dit, cette zone-là, on la valide.
Et y a-t-il des villes, du coup, dans le Grand Paris qui vous intéressent particulièrement?
Alors, les villes qui nous intéressent particulièrement du Grand Paris, je vais dire que c'est principalement Nanterre et les Grous, sur lesquels on se positionne. Et j'allais dire, c'est en bureau. On est assez sélectif. Sur du logement, là, pour le coup, on est capable d'aller de façon beaucoup plus large sur toutes les zones du Grand Paris.
Le nouvel écosystème, bureau physique, le bureau, le un tiers-lieu pour travailler, la résidence principale ou la résidence semi-principale pour ceux qui ont la chance d'avoir un deuxième logement. Comment vous voyez les choses, vous deux? Là, sur l'époque, parce qu'on a beaucoup parlé l'année dernière, après le premier confinement, du télétravail. Là, les choses commencent un petit peu à s'essouffler. Comment vous voyez de part et d'autre les choses sur ce mix, sur cette symbiose, sur cette synergie entre, d'un côté, le bureau physique et le domicile?
C'est un équilibre qui fait sens. Alors après, comment l'équilibre, c'est un grand mot, mais comment on répartit ça là-dedans? Je pense qu'on a eu, on vient d'avoir une année pour se calibrer. Donc on sait que ça ne peut pas être 100 à droite ou 100 à gauche. Et il y a un mix de cet ensemble qui va se faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette mixité, cette hybridation du travail, aujourd'hui, on est sûr qu'elle a du sens. Elle est cohérente. Elle a été accélérée. C'est aussi un des phénomènes qui a été accéléré par la crise du Covid. Mais quelque part, c'est une continuation avec ce que permettait tout ce qui a été évolution digitale, le fait d'être connecté en permanence, le lieu de travail, pour une partie des tâches, est plus nécessaire. Il y a une densité également des journées par rapport à il y a 15 ans qui a augmenté de par le digital. Donc, aller consommer tous les jours un temps de trajet, c'est remis en question. Il y a toutes les aspirations écologiques, développement durable, qui contribuent aussi à changer cet équilibre du 100% bureau. Je pense qu'il n'y a pas de règle, et en fonction des sociétés, de leur activité, bien sûr, il y a des métiers qui ne peuvent pas être délocalisés. On parle surtout de métiers de cadre, hein, finalement, où ce mix est le plus simple à mettre en place. Moi, je verrais bien, dans les années qui viennent, quelque chose comme 3 jours au bureau et 2 jours qui se répartiraient entre le domicile ou les tiers-lieux. Après, la proportion va dépendre du confort que chacun peut avoir à son domicile ou de la proximité de tiers-lieux, par exemple.
On est d'accord, ça ne peut pas être du 100% l'un, 100% l'autre. Il faut qu'il y ait un mix entre les deux, forcément.
Alors, oui, effectivement, je pense qu'en moyenne, on va parler oui, effectivement, entre 1 à 2 jours de télétravail par semaine. On sent que c'est cette tendance-là qui, aujourd'hui, est en train d'émerger avec des bureaux dont la conception doit rester pour être flexible, hein, parce qu'on a vraiment l'impression que là, le marché se cherche encore, hein, à savoir un peu comment est-ce qu'on va aménager nos bureaux. Donc il faut avoir un outil mobilier pour les locataires qui soit assez flexible. Ça, c'est un premier point important. Et ce dont je vous disais, effectivement, l'impact du télétravail, je le vois plus sur le logement. Avec aujourd'hui, comment adapter les logements au télétravail, puisqu'ils n'ont jamais été conçus pour ça. Et alors que les bureaux, enfin, malgré tout, on a toujours essayé d'avoir un peu de flexibilité. Là, sur les logements, aujourd'hui, c'est le vrai sujet. C'est le vrai sujet, et avec des gens qui sortent peut-être de Paris pour aller, sans aller très loin, mais pour parler déjà basculer ne serait-ce qu'en première couronne, pour chercher des extérieurs, des immeubles qui ont déjà peut-être été conçus avec des lieux dédiés pour le télétravail, soit dans l'immeuble, soit effectivement en tiers-lieu, soit dans l'appartement. Donc c'est aujourd'hui, c'est là où il y a peut-être une rupture sociétale, et peut-être sur le logement. Plus que réellement sur le tertiaire.
C'est qu'il faudrait prendre finalement le problème et la question à l'envers. Exactement. C'est voir le logement. De toute façon, on l'a vu, hein, cette année, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été publiées où les Français et les Françaises se rendaient compte que finalement leur logement était inadapté au télétravail. Alors, soit parce qu'ils devaient travailler sur une table quelque part, parce qu'ils n'avaient pas forcément de bureau attitré, parce qu'il y avait les gamins à côté, parce que c'était compliqué. Ça, même vous, dans votre quotidien, dans vos professions respectives, dans vos sociétés respectives, vous le voyez, vous aussi, que cette nécessité de revenir au bureau physique. Je ne sais pas.
C'est une nécessité.
Yann Cédric.
Oui, alors clairement, le 0% bureau, moi, j'y crois pas, parce que une entreprise, sa valeur, c'est avant tout le capital humain, l'intelligence collective. Et ça, par Google Meets ou Teams, c'est quand même un peu limité. On parlait en préambule tout à l'heure entre nous de l'accueil aussi des stagiaires, des nouveaux embauchés. C'est quand même compliqué d'onboarder des gens à distance. Donc à un moment, le cœur de l'entreprise, moi je pense quand même qu'il est dans ses bureaux, qu'il est en son siège. Ce n'est pas nécessaire d'y être tous les jours, mais le poids du corps, il doit être plus pour moi dans les bureaux qui ont une vraie fonction d'identité en fait.
Socialisation par le travail.
Ah bah oui.
Et en ce moment, que voyez-vous ? Voyez-vous des utilisateurs qui, grâce au télétravail, peuvent supprimer des postes de travail, mais en profite pour justement créer des espaces d'animation en vue de renforcer l'expérience collaborateur, ou voyez-vous plutôt vos clients libérer des surfaces et pour en rechercher des plus petites ?
Il y a plusieurs cas de figure. Ça dépend déjà, est-ce que je suis propriétaire, est-ce que je suis locataire de mes espaces ? Et si j'ai un engagement, est-ce qu'il est encore long ou pas ? Mais je dirais que globalement, oui, il y a une réduction de surface. Et si je suis quelque part bloqué avec ma surface, je vais chercher à la valoriser. Et là, il y a deux actions qui peuvent d'ailleurs être rassemblées. C'est soit je vais sous-louer une partie, soit je vais créer de la valeur. Et soit cette valeur, je vais la créer, mais en sous-louant aussi. Donc je vais amener du service ou je vais aller chercher un loyer économique pour valoriser une partie des espaces que je n'utilise pas. Donc on peut avoir partagé une partie de ses bureaux en coworking, en louer une partie, louer ses salles de réunion, louer une partie pour des conférences si on est équipé, faire rentrer des offres de restauration. Bien entendu, ça peut poser des questions techniques et administratives sur les bâtiments. Mais en tout cas, il y a plein d'options possibles. En tout cas, on va rechercher une valeur, qu'elle soit économique ou qu'elle soit dans l'usage.
D'accord. Une valeur ajoutée.
Et au niveau des recherches de vos clients, voyez-vous des changements quant à la stratégie d'implantation immobilière d'un point de vue géographique ? Cherche-t-il davantage en région ?
Pas trop encore. Enfin, c'est vrai qu'on pourrait penser, je pense, oui, il y a forcément quelques exemples, mais je dirais pas qu'il y a une grosse tendance de fond là-dessus. Je trouve que finalement, la tendance, elle est plutôt sur le résidentiel. Est-ce que mon logement actuel me permet de télétravailler ? Donc, comme on le disait avant, est-ce que le logement demain, il ne devra pas être conçu différemment ? Alors, est-ce que je vais m'écarter ? Est-ce que je vais juste changer de logement pour avoir plus de place, mais en restant au même endroit ? Et je trouve que l'impact, finalement, géographique et de modification, il va être plus sur le résidentiel que sur le bureau, parce que tout le monde ne va pas déménager, et qu'il y a ce besoin de centralité, d'être connecté à un tissu économique. Et ça ne va pas changer du jour au lendemain.
Oui, et puis souvent, les secteurs, par exemple, de l'immobilier d'entreprise ou de la finance, finalement, les entreprises sont tous dans les mêmes quartiers, dans les mêmes zones. Et on a besoin de les rencontrer en présentiel et on a besoin d'être proche de nos clients, partenaires, confrères.
Exactement. Cette notion d'écosystème physique qu'on connaît bien dans Paris, avec des quartiers qui sont quand même, malgré tout, j'allais dire connotés. Ça ne va pas changer. Cette notion fondamentale humaine ne va pas changer.
Alors qu'est-ce qui peut changer concrètement ? Par exemple, on en a parlé peut-être de flex office. Est-ce qu'on va sortir un petit peu de l'individualisation des bureaux ? Par exemple, est-ce que je vais perdre mon bureau attitré ? Est-ce que ça sera un bureau... Par exemple, moi, je viens travailler le lundi, ma collègue viendra travailler le mardi, on a le même bureau, on réduit un peu l'espace, on met du service, on met de la valeur ajoutée sur le reste des bureaux. Comment ça peut se matérialiser ?
Je pense qu'il n'y a pas de... Je vous donne mon point de vue de propriétaire immobilier, hein, mais il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire que ça va vraiment dépendre du business de chaque entreprise. Parce que, effectivement, certaines boîtes peuvent se permettre d'avoir la moitié des équipes qui ne sont pas au bureau et l'autre moitié présente. D'autres entreprises ont besoin, à un moment donné, d'avoir tous leurs employés en même temps, ou toutes les équipes en même temps, pour pouvoir se réunir et travailler. Donc, on a vraiment plein de cas de figure qui sont possibles et qu'on va être amené à expérimenter. Et c'est vrai que, et là, aujourd'hui, j'avoue qu'il n'y a pas de modèle établi, on est un peu dans le flou. Et donc, c'est dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment pour nous pouvoir concevoir ou rénover, mais des actifs qui sont flexibles et qui vont pouvoir permettre à un locataire de pouvoir créer plein de salles de réunion et d'avoir des postes, j'allais dire, en flex office. Et il y a d'autres entreprises qui veulent rester encore avec leur approche cloisonnée, etc. Et donc là aussi, il faut qu'on soit capable de leur prévoir cette approche-là.
Et on parle d'une échelle là sur combien d'années ? C'est sur 5 ans ? C'est sur 10 ans ? C'est à partir du moment où on va prendre la décision ? Imaginons, là, aujourd'hui, on prend la décision de se tourner vers tel ou tel type de flexibilité. Combien de temps ça peut prendre pour mettre ça en place ? Est-ce que, finalement, la crise du Covid, elle ne met pas quelque chose des phénomènes assez passagers, assez éphémères ? On se dit, ah, c'est vrai, ça serait pas mal comme ça. Et puis, finalement, on revient comme c'était avant.
Non, je pense que là, pour le coup, il y a quand même des attentes des salariés. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Enfin, on voit, là, vous allez revenir... vraiment du côté des collaborateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de mettre en place le télétravail, hein, 2 jours par semaine, vous êtes obligé de vous organiser. Et cette obligation d'organisation va avoir un impact, bien sûr, sur votre organisation physique immobilière. Et ça doit se faire très rapidement. À partir du moment où vous mettez en place, ça se fait dans les 6 mois. Hein. Donc là, je parle bien que quand vous restez dans vos locaux, là, vous devez les raménager après. Ça va peut-être aussi justifier un peu de mouvement sur le marché locatif, hein, puisque... peut-être que ma surface me convient plus dans ma future organisation, donc il faut que j'en trouve une autre, et puis ça va créer un peu de fluidité sur le marché aussi.
Et bon. Justement, en termes d'aménagement de surface, quels changements avez-vous vu, avez-vous pu observer, Yann Cédric Bozek, sur quant aux exigences de vos clients, peut-être la climatisation ?
Alors, déjà, c'est vrai qu'il n'y a pas de règle absolue parce que ça dépend vraiment du business, de la maturité et de la visibilité sur les business des boîtes. Mais globalement, oui, sur tout ce qui est confort, santé, aujourd'hui, ça, on ne peut pas transiger. Donc, effectivement, la qualité de l'air, c'est un sujet. Il faut que ce soit ventilé correctement. Ça, c'est un minimum. Ce qui est sûr, c'est que c'est marrant parce qu'au début du Covid, moi, je me suis dit finalement, je pensais qu'il y en aurait pour un mois, peut-être naïvement, mais je m'étais dit ça va pas changer grand-chose. Et j'avais dit les changements seront proportionnels à la durée du Covid, donc il va pas se passer grand-chose. Finalement, ça fait un an, donc je pense qu'il va y avoir un héritage, mais pas forcément négatif de la Covid. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense On se rend compte que le bureau, on n'est pas obligé d'y être toute la semaine, mais quand on y vient, on veut que ce soit qualitatif. Je pense qu'il va y avoir une attente importante de la qualité, de l'ergonomie, du confort, du service.
Et vous voyez d'ores et déjà des utilisateurs demander justement, changer actuellement le système d'aération, changer l'aménagement.
Oui, je veux dire, moi, c'est très clair. Nous, on le voit. Il y a des vraies attentes sur la qualité de l'air. Et il y a beaucoup moins de focus sur le capacitaire, par exemple. Enfin, je veux dire, quand on raisonne, ne serait-ce qu'il y a un an de ça, on réfléchissait à comment est-ce qu'on peut monter les capacités, enfin baisser les capacitaires à 6 mètres carrés, 1 pour 5, 1 pour 6, 1 pour 8, vous voyez, alors qu'on était avant 1 pour 15. Et donc là, aujourd'hui, le focus, il est nettement moins sur ces contraintes-là, mais beaucoup plus, effectivement, sur la qualité sanitaire, enfin sur le traitement d'air et les côtés serviciels aussi.
La connectivité, les outils que je vais avoir. On a tous vécu les visios horribles à distance avec les réseaux individuels de chacun pendant le Covid. Et là, ce qu'on veut, quand on est au bureau, qu'on fait une visio un petit peu corporate, on va dire, ou sur des sujets importants, on veut avoir quelque chose de solide, etc. Et c'est un matériel qu'on ne peut pas se permettre d'avoir à la maison. Donc en fait, le bureau, le niveau d'exigence des utilisateurs, je pense qu'il va vraiment augmenter. Et on y va pour avoir accès à des technologies, à du confort qu'on ne peut pas avoir chez soi.
Parce que justement, pendant cette période de télétravail, on s'est rendu compte de ce qui n'allait pas. Et donc, on aimerait avoir ce qui va bien dans nos logements, c'est-à-dire le confort, travailler dans des bonnes conditions et en même temps avoir, comme vous l'avez dit, une qualité de travail, de connectivité élevée, tout simplement.
Et des performances énergétiques aussi, puisque ça, c'était une tendance qui était là avant et qui continue. Avec une pression réglementaire et une pression aussi des locataires, des corporates, dans la course au zéro carbone. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important.
Qualité sonore aussi, des bâtiments, avoir un environnement calme, propice au travail.
Bien sûr. Alors ça se fait déjà par le traitement qualitatif de l'enveloppe du bâtiment, mais ça se fait aussi par son organisation à l'intérieur. Bien sûr, il y aura quelques bureaux fermés, soit pour des fonctions qui exigent de la confidentialité, soit simplement pour travailler au calme. Des phone box qui peuvent permettre aussi de passer les coups de téléphone sans gêner tout le monde sur l'open space ou pour un travail de concentration. C'est aussi une façon de traiter ce sujet-là.
Eh bien, écoutez, on arrive déjà à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci Audrey Jourdain d'avoir été avec nous. Merci Fabrice Lombardo d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Yann Cédric Bozek d'avoir été aussi avec nous. Merci. Moi, je vous dis à très vite dans ce Mago Carré. Et puis, vous pourrez retrouver ce podcast évidemment sur Radio Immo et radioimmo.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir.
Le Mag au Carré en partenariat avec la lettre Mètre Carré.